Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Si tu veux tous les matchs, me fourrer, tu me le dis direct.
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Eh bien, Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier, l'ancien tennisman français Hagelauer. Alain Teller a demandé à Yannick Noah les raisons de cette décision.
Parce que je me suis aperçu que lors des tournois et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne. On est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels et c'est ce qui explique le choix de Patrick.
Le rôle d'un coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor. Tout ça.
Éminence grise ?
Non, pas du tout non plus. Non,
le porteur de raquette ?
Non plus, surtout pas.
Et en un mot commençant, union libre ou mariage de raison ?
Union libre. Union libre de toute façon.
Salut, c'est Max et bienvenue pour la troisième et dernière partie de l'épisode avec Patrice Hagelauer. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour ce 16e épisode, Hagel nous partage sa vision du tennis français actuel en termes d'accompagnement et d'entourage. On a évidemment beaucoup parlé de Yannick Noah et Patrice regrette que la jeunesse n'ait pas assez sollicité des gars qui auraient pourtant tant à transmettre. Notre invité nous parle ensuite de son expérience en tant que DTN chez les British afin de comprendre pourquoi ils sont venus chercher un Frenchie à l'époque. Vous verrez d'ailleurs à la toute fin de l'épisode que ça a été une des plus grandes périodes de doute de sa carrière. Vous commencez à me connaître, on a donc parlé argent et notamment du salaire de Patrice, 4 fois inférieur à celui des coachs dans le privé au moment du sacre à Roland avec Yann. Puis on a terminé en roue libre grâce aux questions de fin, communes à toutes les interviews, qui permettent d'élargir le cadre tennistique et de comprendre que Patrice a tout simplement eu 15 vies. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Et si tu fais partie des tout meilleurs, t'auras noté qu'on a lancé la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast sur laquelle on publie de courts passages de chaque interview. C'est un peu la bible de notre podcast, alors file t'abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Place à notre 16e épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous.
C'est ce que tu reproches un peu à la génération Joe, Richard, Gaël, Gilles et les plus jeunes ?
Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a en France des gens, d'ailleurs, ils se sont rapprochés après, hein, parce que je vois que Sébastien a entraîné un peu Richard. Richard est allé aussi quelques fois voir Yann, mais pas assez souvent. Et je pense pas avec l'investissement qu'il faut avoir sur ces gens-là, en leur demandant plus, en leur demandant une présence sur certains tournois, sur des tournois, sur des gros tournois, sur des moments clés. Moi, je me dis... C'est important. Même les filles aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Que je me dis, oui, Caroline Garcia, j'adore Caroline, moi. J'adore son jeu. Et je me dis, Caroline, demande à d'autres. Caroline, va voir Amélie, va voir je sais pas qui. Va voir, il y a des tas de personnes qui peuvent t'aider. Et aider le papa, aider, mais faire appel aux autres. C'est pas tout d'un coup. C'est quoi, on rabaisse son ego quand on va voir les autres ?
J'ai pas l'impression, parce que tu vois, elle va à l'académie de Rafa, voir l'oncle,
oui,
donc quelque part,
oui. Elle a attendu combien de temps ? Elle a attendu combien de temps pour y aller?
Ouais.
Elle a quel âge maintenant?
Bah ouais, il y a du temps qui est passé, ouais.
J'espère qu'elle va pas, et que c'est pas que le papa qui va s'occuper d'elle, qu'elle va discuter avec l'oncle de Nadal et qu'elle va essayer de faire des choses. Et puis, mais ce qu'il faut après, c'est que peut-être ces gens-là soient présents sur certains tournois avec le papa.
Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience de DTN chez les British?
Ah, j'ai appris beaucoup de choses, si tu veux. J'ai eu l'impression de me retrouver dans la situation que j'ai découvert quand j'ai débarqué du Maroc en France.
Ah oui.
Où il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que la fédération existait, bien sûr, avec le tournoi de Wimbledon et tout ça. Mais dans les clubs, il n'y avait rien. C'est-à-dire les écoles de tennis étaient inexistantes. Tu n'avais pas d'école de tennis. Les écoles de tennis qui existaient, parce que j'ai fait le tour, hein, on m'a dit, tiens, là-bas, il y a une école de tennis qui est super, il y a 150 jeunes. Oh, je me dis, c'est formidable, enfin, putain, je vais pouvoir y aller, donc j'y vais. Et je vois donc les coachs qui sont là-bas, et je commence à discuter avec eux, je dis, comment ça se passe? Et ils me disent, on a fait des cycles, donc on en a 50 qui viennent et qui vont faire 10 séances. Après, on va en avoir 50 autres qui vont venir, qui vont faire 10 séances. Et donc, 10 séances, c'est 10 semaines. Et donc, il y en a 50 qui venaient faire 10 fois une heure et c'était fini. Ciao, vous vous débrouillez après. Après, il y en avait 50 autres. Donc, ils avaient eu dans l'année 150 joueurs, mais il n'y en avait en fait que 50 qui avaient eu 10 heures, quoi. Donc, les écoles de tennis étaient inexistantes. Et quand j'aurais dit, écoutez, nous, on a une chance inouïe en France, déjà pour la vie des clubs, parce que les gens qui jouent au tennis, il faut bien leur apprendre à jouer. Donc, les futurs membres des clubs, il faut bien qu'ils apprennent à jouer. Donc, ils apprennent quand ils sont jeunes et après, ils viennent jouer. Non, eux, ils faisaient un tennis pour adultes. Donc, c'est des gens qui sont adultes, qui veulent un peu se détendre, qui prennent des leçons individuelles et qui ensuite vont dans les clubs. Et puis, les clubs sont tous super, super luxe et tout ça. On y va manger, c'est social. Et puis, on fait des doubles, ça joue en double. Les dimanches, c'est les doubles, tout s'arrête pour prendre le thé et tout ça. Enfin, je découvre ça. Donc, je leur dis, mais il faut maintenant que dans les clubs, il y ait des écoles de tennis. Donc, pour qu'il y ait des écoles de tennis, il faut qu'il y ait des enseignants. Est-ce qu'il y a des diplômes? Non. Les gars passaient des diplômes en 3 jours, ils avaient leur diplôme. Donc, c'était rien, quoi, comme diplôme. Comme aux États-Unis, hein, c'était comme ça. Donc, il a fallu créer donc des diplômes, qui soient des diplômes qui se passent avec tant d'heures sur l'année, pour vraiment que les gens aient une licence, quoi, soient diplômés à la fin. Donc, il a fallu mettre tout ça en place, avec une femme qui était extraordinaire, qui s'appelait Anne Pankhurst, qui a mis tout ça en place, avec donc des vrais enseignants, pour diriger des écoles de tennis après. Les clubs, quand on allait les voir pour mettre en place une école de tennis, ils disaient, nous, on veut bien mettre l'école de tennis, mais c'est si la fédération paye. Alors, je dis, mais attendez. Donc, il a fallu, en fait, qu'on amorce la pompe sur 3 ans en payant 50% de ce que pouvait représenter le coût de l'école de tennis. Donc, c'était 50% la première année, 30% la deuxième année et 15% la troisième année. Voilà, pour pouvoir créer des écoles de tennis dans les clubs pour qu'ils puissent lancer l'école de tennis. Après, il a fallu quand même que les jeunes qui étaient en école de tennis puissent jouer les week-ends, parce que les week-ends, ils n'avaient pas le droit de jouer, les gamins. Ils n'avaient pas le droit de jouer les week-ends. On est les gosses. No children allowed during weekends.
Pourquoi ils sont venus chercher un Frenchie, les Anglais?
Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire bouger les choses et qu'ils se disaient, si on ne fait pas venir quelqu'un de l'extérieur, parce que je connaissais bien Richard Lewis, qui est maintenant, en fait, c'est le directeur de Wimbledon maintenant, hein, du All England Club. Richard Lewis, qui était le DTN de l'époque, et qui m'a téléphoné un jour en me disant, Patrice, à un moment où moi j'avais quelques soucis avec le président Beams, et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir prendre le poste de directeur technique? Il y a beaucoup de choses à faire, est-ce que ça t'intéresserait? Et moi, j'ai vécu ça comme une expérience incroyable. Je me suis dit, c'est fabuleux, je vais découvrir quelque chose. Et je vais découvrir. Et chaque fois, je découvrais.
Tu étais à Londres?
Je découvrais que Donc c'était extraordinairement intéressant. Il a fallu faire un peu ce qu'on avait créé en France à l'époque avec Gilles de Kermadec, c'est-à-dire dans chaque comté, un comté c'est comme les départements chez nous, dans chaque département il a fallu mettre ce qu'ils appellent là-bas un officier de la performance, un performance officer, c'est un peu comme les CTR chez nous, donc c'est quelqu'un qui va vraiment localement essayer de voir un petit peu comment fonctionnent les clubs, quels sont les jeunes joueurs qui ont un potentiel, essayer d'organiser des stages, voilà tout ça, et puis rassembler tout ça dans des unités, des pôles, qui soient des pôles fédéraux, des pôles nationaux, un peu comme on avait nos tennis études en France. Mais il a fallu que je mette tout ça en place. Ça m'a pris 4 ans, et au bout de 4 ans, on avait... Alors, le point de départ, c'est de dire il faut qu'on puisse avoir 500 clubs en Grande-Bretagne où il y a des écoles de tennis, avec enseignants, avec école de tennis, un peu modèle. Et quand je suis parti, il n'y en avait pas tout à fait 250. Mais j'étais plutôt content de voir déjà que ça se mettait en place. On avait pu mettre des officiers, des CTR, disons, dans presque tous les comtés. Donc, il y avait un peu tout ça qui se mettait en place. Disons, on mettait les graines du fonctionnement en place. Et je suis parti pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai un souci familial, bien sûr, avec ma fille, bon, peu importe. C'est un souci de santé. Et puis, j'avais, en même temps, Guy m'avait dit, écoute, Pat, on a Thierry Tulane, là, qui est maintenant sur Sébastien Grosjean. Et dans les critères pour entraîner l'équipe de Coupe Davis depuis un certain temps, il fallait être un coach, mais un coach qui n'entraînait pas un joueur français, qui n'entraînait pas de joueur du tout, d'ailleurs. Donc, Guy me dit, écoute, voilà, moi, il n'y a que toi, donc il faut que tu reviennes, parce que, il y a Sébastien... Il y a Clément, il y a Grosjean, tout ça, et voilà. Et donc, ils veulent que tu reviennes parce que tu représentes quelqu'un qui entraîne personne autour, et puis tu as l'expérience d'un coup de la liste, tout ça. Donc, je lui écoute, ça tombe bien, mais je dis, moi, je veux que ce soit toi, mon patron, je veux pas que ce soit avec Christian Bims parce que je suis parti avec ce Christian, tout ça. Donc, ok. Et en même temps, c'est Jean-Claude Massias qui était DTN, qui est mon pote de toujours, Jean-Claude. Et Jean-Claude m'a dit, écoute, en même temps, on va mettre en place un diplôme d'entraîneur dit fédéral, entraîneur fédéral de haut niveau, c'est-à-dire que ce sont les gars qui sont déjà diplômés, qui ont DE, là, diplôme d'État, mais qui veulent aller sur le circuit. Et donc, on a mis en place avec Bernard Pestre un diplôme avec un certain nombre d'heures, avec 10 modules. Il y avait un module, si tu veux, qui était un module de psychologie, il y avait un module de communication, il y avait un module de biomécanique, il y avait 10 modules comme ça qui permettaient aux joueurs du circuit, ex-joueurs du circuit, qui voulaient à nouveau entraîner sur le circuit, d'avoir des bases. Tu vois, et ça a super bien marché pendant plusieurs années. Puis après, ça a disparu. Mais c'était super. Et moi, je m'en suis occupé avec Bernard et ça m'éclatait, ça. Tu vois, j'adorais faire ça parce que c'était bien ce que j'aimais, tu vois. C'était justement cette idée de transmettre un peu l'expérience que j'ai vécue, quoi.
J'ai lu qu'à l'époque, quand tu accompagnais Noah, tu gagnais 15 000 francs par mois, donc un poil plus que 2 000 euros. Les coachs dans le privé touchaient 4 fois plus. C'était quoi, toi, ta vision de l'argent à cette époque-là et comment ça a évolué?
En fait, si tu veux, moi, j'avais mon salaire de prof de gym. Parce que je n'étais pas payé par la fédération, moi, j'étais payé par le ministère.
Ah oui.
Si tu veux, j'étais mis gratuitement à la disposition de la fédération pendant ces 10 années, tu vois, jusqu'en 84, quoi, jusqu'après que Yannick, tu vois, que je suis parti. Mais si tu veux, honnêtement, cette époque-là, les joueurs ne gagnaient pas l'argent qu'ils gagnaient aujourd'hui. Moi, j'ai commencé avec les jeunes, si tu veux. Ma vision, c'était, j'ai une chance incroyable de pouvoir être dans une fédération et de ne pas être, si tu veux, vraiment bosser dans ce que j'aime, le tennis, dans une fédération, pouvoir m'occuper de joueurs de haut niveau et tout le truc, faire tout ça, pour moi, c'était fantastique. J'avais, si tu veux, j'avais fait ça pour ça, et toute cette formation pour ça. Et je ne me voyais pas enseignant d'éducation physique dans un lycée parce que j'aimais trop le tennis. Tu vois, j'aurais peut-être, moi j'avais passé tous mes diplômes de tennis, de prof de tennis, tout ça, j'avais passé tout ça. Donc j'aurais à la limite fait peut-être, tu vois, directeur sportif dans un club de tennis ou ça, peut-être, je ne sais pas, ou entraîner un joueur, je ne sais pas, peut-être. Mais ma vision, c'était, putain, c'est fabuleux que la fédération puisse m'accepter et m'offrir un poste d'entraîneur national et de m'offrir la chance de, voilà, de m'occuper des meilleurs joueurs français. Tout ça, pour moi, c'était le paradis, quoi. L'argent, à cette époque-là, tu ne pensais pas à l'argent, tu vois. Et après, si tu veux, le seul souci que j'ai eu après, c'est que comme tu es quand même sur le circuit toute l'année, tu sais, des fois, quand tu fais ce job-là, comme je le faisais à l'époque pendant très, très longtemps, c'est 8 mois de l'année hors de France. 8 ouais. mois de l'année hors de France, quoi, tu vois. Donc, et puis, le problème que j'ai eu après, si tu veux, c'est que je payais, mes frais étaient payés par la fédération. Donc, pendant 8 mois, si tu veux, j'étais défrayé, sauf mon loyer que je payais. Donc, avec cet argent, je payais mon loyer. Et après, ça ne représentait pas grand-chose, mais je vivais dans les tournois, j'étais dans les tournois, je ne pensais pas à ça. Je commençais, si tu veux, après, quand j'ai voulu, je me suis dit, tiens, ben maintenant, ça serait peut-être plutôt que de payer un loyer pour rien, parce que des fois, je payais 8 mois pour rien, ben ça ouais. serait peut-être bien que j'achète quelque chose. Ouais. Et donc, j'avais fait un emprunt, et puis il fallait que je rembourse l'emprunt, tu vois. Donc, et là, j'ai eu à un moment donné, si tu veux, j'avais quelques soucis, voilà, et puis ça me gênait de parler fric. Parce que j'avais le sentiment d'être tellement, honnêtement, tu vois, et tu pourrais demander la même chose à Jean-Claude Massias qui était comme moi, j'étais tellement heureux de faire ce que je faisais, mais tellement que je ne pensais absolument pas, si tu veux, à l'argent. Mais pas du tout, tu vois, j'étais à l'aise.
Ouais.
On me payait tout, j'avais tous mes frais de payer, j'avais mon loyer et j'avais un petit peu d'argent, il restait un peu d'argent. Pour moi, c'était formidable. En plus, je jouais avec des joueurs putain, qui jouaient bien. Mon seul objectif, c'était, putain, il faut qu'ils progressent, c'est pas possible qu'ils ne progressent pas. C'était mes seules obsessions, c'était ça, tu vois. C'était de me dire, putain, il faut que les mecs progressent parce que j'avais envie, si tu veux, de réussir à ce que je n'avais pas, moi, réussi à faire déjà. Bien sûr, mais essayer de dire, putain, il faut que je puisse apporter à ces mecs-là quelque chose, quoi. Je ne suis pas là à être avec eux que pour rien faire. Je veux les aider à progresser. C'était ça ma satisfaction et mes objectifs. C'était les progrès, tu vois, de ces gars-là. Et quand j'ai quitté, si tu veux, j'ai quitté, et là, Yannick m'a dit, bon, maintenant, tu es dans le privé, discute avec mon argent, pour que tu aies que je puisse te verser quelque chose. Putain, je dis, mais Yann, qu'est-ce qu'il faut que je demande et tout ça. Il me dit, bah, ça ne me regarde pas, que je demande, de toute façon, je serai toujours d'accord. Et puis, c'est l'agent de Yannick qui est venu me voir, qui m'a fait une proposition. J'ai dit oui tout de suite, quel que aurait été le truc, tu vois. Ça représentait ouais. vraiment déjà beaucoup pour moi. D'autant plus que j'étais directeur du centre de l'anglais qui m'amenait un salaire qui était très important pour moi parce que j'ai toujours eu, si tu veux, dans mon esprit, le souci de me dire que je pouvais dire à un joueur « Ciao, au revoir » et je retombais sur mes pattes. C'est-à-dire, je disais « Ciao, au revoir » au gars quand j'en entraînais à la fédération. J'étais entraîneur et je pouvais prendre n'importe quel autre joueur ou m'occuper de jeunes. J'avais 36 000 trucs à faire à la fédération. Partir dans un tennis étude ou n'importe où, tout m'intéressait. Et quand j'ai travaillé dans ce centre, c'était ça aussi. Et les quelques fois où j'ai eu des discussions avec Yannick ou avec d'autres, c'est de dire, les gars, écoutez, moi, ça ne correspond pas à ce que je veux. Ciao, au revoir. Quand vous aurez envie et qu'on sera comme on a l'habitude d'être, eh ben, vous viendrez me chercher et ça sera banco et on repartira. Et donc, j'avais cette bouée de sauvetage. Tu vois, qui était de ne pas dépendre financièrement des gars et de pouvoir retomber sur mes pattes. Et moi, j'ai toujours eu ce souci de me dire, je ne veux pas être complètement à la merci du joueur pour justement ne pas céder en cas de situations qui sont des situations où ben, perte de motivation ou bien le gars commence à faire des conneries ou des trucs qui ne me plaisent pas, ou tout ça, je puisse dire du jour au lendemain, ciao, au revoir, et je repars et je vais de l'autre côté. J'avais toujours très envie de ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu un petit peu, si tu veux, cet esprit aussi d'avoir des entraîneurs à plein temps à la fédération pour justement qu'ils puissent travailler avec les joueurs et avoir cette démarche de dire, attendez, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, ciao, au revoir. Tu vois, et ça, je crois que quand je vois aujourd'hui, les choses ont complètement changé parce que quand tu es entraîneur de haut niveau et que le joueur ne veut pas que tu sois justement attaché à une fédération ou un truc comme ça, ben, il te fait un contrat. Tu ne peux pas savoir le nombre d'histoires qu'il y a avec des joueurs qui sont bien payés, mais qui, des fois, les contrats ne sont pas comme les joueurs espéraient. Donc, il y a des procès entre l'agent et le joueur et l'entraîneur, où il y a des trucs qui sont incroyables. Les choses ont évolué, peut-être vraiment c'est normal, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Je crois que comme les joueurs gagnent beaucoup d'argent, mais c'est vrai que les entraîneurs aujourd'hui se font payer beaucoup plus cher qu'à l'époque, ou ça marche, ou je te jette, et puis de toute façon j'en retrouverai un autre, hein, puisque je paye beaucoup, donc je vais en retrouver un, puisque c'est comme ça. Mais c'est cette notion-là, elle, quelque part, je me dis oui, c'est bien dire dans l'évolution des choses que les joueurs gagnent plus d'argent, c'est bien que les entraîneurs gagnent plus d'argent, mais quelque part, je dis trop, c'est trop, et que ça peut créer vraiment des conflits qui sont des conflits qui dépassent et, qui peuvent nuire, si tu veux, à l'efficacité du fonctionnement. Tu vois ? Pour une bonne raison aussi, c'est que beaucoup plus qu'avant, tu as un personnage qui devient un personnage central, c'est l'agent, aujourd'hui. Et tu as, il y a eu avant, mais c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui, tu avais, toi l'entraîneur, tu établis un projet sportif, un programme sportif, avec voilà, des moments qui sont des préparations, justement, ou des tournois secondaires qui peuvent préparer des tournois plus importants, par exemple, sur telle surface, par exemple, qui prépare la terre battue ou le gazon et tout le truc. Donc, tu as ta vision globale avec des périodes de repos, des périodes de récupération. Et éventuellement, on faisait à l'époque, si tu veux, des périodes de travail foncier, tu vois, sur les fins d'année. Tout ça, on arrivait à le mettre en place. Et tu as aujourd'hui l'agent qui arrive avec un programme économique et qui va te dire « Non, on ne va pas faire tel tournoi là, il faut mieux le faire là parce que j'ai une garantie ici ». Là, j'ai une exhibition qui est là. Là, j'ai tel truc. Là, j'ai tout ça. Et puis, on ne peut pas refuser parce que les sommes, attention, c'est vachement important. Et puis, tac, tac. Et toi, tu es l'entraîneur, tu dis, mais attends, là, ça fait faire 6 tournois de suite. En plus, j'ai un déplacement. Là, je fais un tournoi en Argentine. Après, je fais un autre en Europe. Après, je repars aux États-Unis. Après, je fais en 3 semaines, je fais tac, 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 c'est des surfaces différentes. Oui, non, mais attends, tu as vu la garantie là ? Impossible de refuser, c'est un truc et tout ça. Et donc, ils ont un pouvoir qui nuit au programme sportif, si tu veux, et ça, c'est vraiment un problème. Ils te prennent aussi par des exhibitions ou des obligations, des sollicitations et tout le truc, des fois des temps sur ou tes périodes de vacances ou de récupération. Et puis, des périodes de foncières. Et on te rajoute des fois, parce que le calendrier est devenu complètement démentiel, que le classement est devenu obsessionnel, et bien, le gars dit, ah, putain, mais là, attends, je ne vais plus être tête de série ici, donc il faut que je fasse 3 tournois, 4 tournois d'affilée. Résultat des courses, tu t'aperçois, si tu veux, que encore beaucoup plus qu'avant, tu as des blessures, ou tu as des gars qui sont fatigués, donc des contre-performances, des blessures et des blessures sérieuses. Et je dis aujourd'hui, déjà, on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que le calendrier mondial, personne n'est capable aujourd'hui de rassembler tout le monde et d'établir un calendrier qui soit un calendrier logique. Logique, qui soit un calendrier, si tu veux, qui préserve à la fois l'intégrité physique, morale du joueur, des joueurs, et qui puisse aussi préserver la qualité du spectacle, tout en les rémunérant suffisamment. Et on vient te rajouter là, en plus, parce que personne ne s'entend, des compétitions qui sont des compétitions sans queue ni tête, qui sont, moi j'ai rien contre la Laver Cup, sinon que la Laver Cup, c'est une compétition historique qui encore aujourd'hui, si tu veux, n'a d'intérêt que parce que il y a quelques très très bons joueurs mondiaux qui jouent, mais autant la Ryder Cup, je peux rester moi 4 jours à regarder la Ryder Cup, parce que c'est l'histoire, mais parce qu'il y a un vrai match. Mais quand tu as l'Europe qui joue contre les États-Unis, par exemple, et que tu as dans Europe, tu as Nadal, Federer, Djokovic, il est où le match? Tu vas jouer contre qui? C'est où l'intérêt? Tu vois, tu te dis quoi? Alors oui, tu vas jouer Federer, tu vas jouer Nadal, mais c'est quoi? Donc, ça ne représente pas un véritable intérêt sportif, si tu veux un spectacle de qualité, tu vois. Ouais. Donc, je me dis aujourd'hui, là, la Coupe Davis, telle qu'elle existe aussi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, aujourd'hui, tant qu'on ne me dise pas que la Coupe Davis, elle est où? C'est où? On a plus rien de Coupe Davis dans cette formule-là. Donc, on met des épreuves, si tu veux, qui bloquent du temps pour les mecs, alors qu'ils devraient prendre ce temps-là pour peut-être récupérer ou mieux se préparer pour être plus compétitif après et pas arriver dans les tournois où tu t'aperçois, alors on a dit à un moment donné, oui, la Coupe Davis, regardez, il n'y a que la moitié des joueurs qui jouent, il n'y a plus d'intérêt, mais la nouvelle Coupe Davis, c'est pareil. La nouvelle Coupe Davis, tu n'as que la moitié des joueurs, hein, tu en as d'autres sur l'exhibition. Federer, il jouait avec Alexander Zverev, je ne sais pas, en Chine. Là, donc, c'est n'importe quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a à revoir, puis on voit en plus, je dis, cette crise-là qui nous bousille tout aujourd'hui, elle aura peut-être un bénéfice, c'est que si à un moment donné, justement, eh bien, tous ces gens-là, les directeurs de tournoi, les directeurs de tournoi du Grand Chelem, la Fédération internationale, l'ATP, la WA, tout ce monde-là, vraiment puisse, à un moment donné, accepter de dire on va discuter. On va discuter et tout le monde va faire des concessions au bénéfice de la qualité du tennis et de la santé des joueurs. C'est ça qui est important. Sans quoi, on va vers n'importe quoi. Parce que là, les difficultés aujourd'hui, il va y avoir des difficultés financières qui vont faire réfléchir tout le monde. Hein. Tout le monde. Donc, il est temps, il est vraiment urgentissime. C'est pour ça que je suis un peu... Bon, moi, j'aime bien sûr que j'aimerais que Roland-Garros se joue et tous... Mais je me dis, putain, est-ce que c'est le meilleur moyen de discuter avec tout le monde pour essayer de revoir tout? Il faut tout revoir. Tout revoir. Parce qu'on part dans tous les sens, là.
Tu as été accompagné avec Lacoste toute ta vie?
J'ai fait une entorse à Lacoste à un moment, si tu veux, quand j'étais... où est-ce que j'étais quand j'étais chez Nike? Parce que j'avais un de mes très, très bons amis qui est décédé, malheureusement, qui a été nommé directeur chez Nike à une époque pendant 2 ans. 2 ans.
D'accord.
J'avais quitté Nike. Mais sans quoi, j'ai toujours été un peu chez Lacoste. J'ai toujours été un fidèle de Lacoste.
Aujourd'hui encore?
Oui, aujourd'hui encore, bien sûr. Oh, ouais, je les connais tous, si tu veux. Bon, même quand ça a été repris, il y a 2-3 gars qui sont restés, que je connaissais. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis toujours... Voilà, tu sais, il me file quelques trucs, hein, c'est tout. Hein, je suis Lacoste parce qu'il me file quelques trucs. Et puis j'adore. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien le crocodile. Voilà.
Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation et de ce que tu as ressenti en la découvrant?
Oh là là. Tu sais, ma première dotation, je vais te dire, j'arrive du Maroc. Je suis junior. Je suis classé 15-1. On me met 15-1 en France. J'arrive, je joue le championnat de France junior. Tu vois, j'arrive en janvier. Le championnat de France junior, il est en juillet, je crois. C'est en juillet ou août, je ne sais plus où tu es. En janvier, je suis à Rochefort-sur-Mer. Il n'y a pas de terrain couvert. On a un garage qui est aménagé, comme je te disais tout à l'heure. Et je joue avec le. Je m'inscris au club. Et le fils du président joue, et bah, il doit être 30 ou 15-4, un truc comme ça. Il a le même âge que moi. C'est un copain, il s'appelle Jérôme Liozin. Il me dit, si tu veux, on joue une fois par semaine, on va dans le garage. Voilà, mon père, c'est le président du club, mais on peut le prendre. Comme ça, on joue un peu tous les deux et tout le truc. Bon, donc je joue une fois par semaine. Alors, je jouais quasiment tout le temps à Marrakech. Tous les jours, je quittais l'école et tac. Bon, je joue une fois par semaine. Donc, je joue mais le tennis l'hiver. Je n'ai même plus envie de jouer à certains moments. Et je passe l'hiver à faire du handball ou du bon, peu importe. Je fais le championnat de France. Je passe un tour, deux tours, trois tours. Je me retrouve en quart de finale. En quart de finale, en huitième, je bats un gars qui était en équipe de France qui s'appelle. Ah merde, son nom va me revenir tout à l'heure, qui était classé zéro. Alors moi, déjà, au départ, je me dis, je vais me faire exploser dès le premier tour. Je me retrouve, je passe donc un premier tour à mon niveau, puis après, je bats, je sais pas, un 4-6, un 2-6, et puis je me retrouve après contre un zéro qui était Jean-Charles Toesca. Tu regardes les trucs, il y avait Goven, Chanfraud, Proisy, tout ça, c'est ma génération, hein. C'est la même chose, truc, et puis tu avais un autre qui était là, et moins deux. Tu regardes le classement de ce truc-là, tu verras. Et je le bats. Et je me retrouve contre Georges Goven, qui devait être numéro 4 français à l'époque, un truc comme ça. Et pour moi, jouer le numéro 4 français, tu es 15 ans, j'arrive de Marrakech, 6 mois avant, j'étais à Marrakech, je jouais avec mes potes, les ramasseurs de balles, tout le truc, et je me retrouve contre le numéro 4 français, pour moi, c'est Dieu. Je sais pas, tu vois, je suis seul, moi, personne ne me connaît. Et j'arrive pour jouer, et là, il y a le DTN, Gilles de Kermadec. Il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui est Robert Hayet. Il y a Georges Degnaud et il y a Jean-Paul Lhote. Ils sont là, autour de moi. Tous. À regarder ce petit gars, il ne savait même pas si j'étais marocain ou français-marocain. Enfin, il savait que j'étais français-marocain, mais si j'étais blond, brun et tout le truc. Putain, je joue. Écoute, en plus, je joue pas mal. Et je fais un bon match contre Georges. Il me bat en 3-7, mais je fais un bon match. Putain. Et donc, je sors de là. Tu vois, j'étais content. Je dis, quel numéro 4 français? Je pensais prendre deux bulles. Hein. Je sors de là. Putain, je me dis, c'est fou. Quoi. Et puis, en plus, devant les autres, là, bon. Et donc, et Gilles de Kermadec vient me voir. Si tu veux, j'ai 17 ans. Hein. Et il me dit, mais d'où tu viens? Et tout le truc, et tout ça. Je dis, Marrakech. Ah bon, Marrakech. Ah, bah, bah. Et il me dit, je vais t'inviter à un stage à l'INSEP. Tu vas faire un stage avec les meilleurs juniors français et tout ça. Et ça va être Robert Hayet et puis je ne sais plus qui, bon, peu importe, qui vont diriger le stage. Putain, et moi, je n'avais jamais fait de stage comme ça. Et on fait un stage et on reste là-bas, je ne sais plus, c'était 3 ou 4 jours. Le footing le matin, et tu sais qui nous fait le footing? Mimoun.
Ah non. Mimoun.
De ma vie, je n'avais jamais fait un footing. On part dans le bois de Vincennes. Écoute, je fais 500 mètres. Je me dis, mais je suis mort. Mais je suis mort. Je ne veux pas tenir. Donc, les gars me lâchent. Je suis seul dans le bois. Je ne sais même plus où sont les bâtiments et tout le truc. Je suis paumé. Donc, j'arrive. Et tout le monde est là. Tout le monde se marre et tout le truc. Je dis, putain, les mecs, je suis mort. Je suis mort, mort, mort. Et donc, ça, c'était le footing, la mise en train. Et il me dit, ben, écoute, ça servira d'échauffement parce que cet après-midi, on a un 1500 mètres. Ah putain, en test. Oh putain, on faisait les tests physiques. Oh putain. Et là, je me retrouve à faire les tests physiques l'après-midi. 1500 mètres, j'ai fait 300 mètres. Et j'aurais dit, je ne peux pas. Voilà, après, on a fait des tests de sprint. Tu sais, tu faisais des tests de sprint, on faisait des sprints sur 10 mètres, tu vois, pour prendre ton temps sur 10 mètres, pour l'explosivité et tout ça. J'ai repris mon train après 3 jours. Je ne pouvais plus monter dans le train. J'arrivais pas. J'avais mal partout. Je te jure, il m'a fallu une semaine pour récupérer. J'étais cuit. Bon, ils ne m'ont plus jamais réinvité. J'ai jamais été réinvité. Mais bon, ça m'a donné un aperçu de ce qu'ils faisaient. Puis après, bah, je suis devenu pote avec tout le monde. Après, j'ai fait mes championnats, tu sais, locaux. Je crois, j'ai fait 15-1-0.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oh. Après, j'ai fait, j'ai dû faire moins quelque chose. Et puis, j'ai fait, quand j'ai été à l'INSEP, là, j'étais à Vincennes. Et là, je suis tout de suite monté à moins 15, tu vois. Donc, voilà. Donc j'étais dans l'équipe de Vincennes. Et...
Après, c'est la dotation, la question.
Donc, Patrice, alors, la dotation. Oui, la dotation. C'est ça, parce que moi, j'arrive avec mes raquettes du Maroc. Hein. J'avais mes raquettes du Maroc. Et j'arrive. Et là, il y a un mec qui me voit jouer, qui tenait un magasin à Auteuil. Et ce mec vendait des raquettes qui étaient les raquettes Marvel. Et le mec, il s'appelait Pozzo di Borgo. Et c'était son magasin, Pozzo di Borgo. Et il filait deux raquettes neuves cordées, qui étaient une dotation. Et il vient me voir et il me fait, écoute, moi, je peux te doter en raquettes. Je lui dis, m'offrir des raquettes? Moi, je payais tout mon matos, hein, parce que c'était, m'offre des raquettes. D'accord, c'est quoi les raquettes? Eh bien, écoute, regarde, il y a un autre jeune qui joue. Ça, c'est les raquettes Marvel. Je dis, putain, c'est fabuleux. D'accord, je joue avec les raquettes Marvel. Et il m'a filé deux raquettes avec des belles housses, si tu veux. Et avec, il m'avait donné des cordes aussi. Et je pouvais, 6 cordages, je crois. Et il m'a dit, mais tu joues avec, hein? Et le truc, bah oui, je joue avec, bien sûr. C'était ma première dotation.
Excellent.
C'est incroyable, hein?
Très bon. Très, très bon. Aujourd'hui, tu t'interviens comme préparateur mental, non? Tu travailles un peu dans la
préparation? Non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle Patrice Ajoloire Consulting et je fais des interventions, soit des interventions en entreprise, tu vois, qui sont en fait, où j'explique quoi, si tu veux, je pars des critères de la réussite dans le haut niveau sportif. Tu vois, okay. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne dans le haut niveau? Quels sont aujourd'hui les éléments qui peuvent vraiment essayer d'être des éléments qui favorisent la réussite? Donc, j'ai, tu vois, toutes des présentations de ce type-là dans des sociétés qui font des fois le parallèle avec la réussite sportive. Donc, moi, j'utilise mon expérience et la réussite, tu vois, que j'ai pu avoir en Coupe Davis ou autre. Quand est-ce que ça a marché? Quand est-ce que ça ne marchait pas? Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi ça marchait? Comment on gère vraiment les défaites, comment on gère les victoires, quels sont les critères de réussite. Enfin, j'essaie d'expliquer un petit peu tout ça. Et ces sociétés font souvent un petit peu le parallèle, tu vois, avec les notions d'esprit d'équipe, avec les notions, voilà, toutes ces notions-là qui interviennent. Et ils font les parallèles dans une entreprise. Voilà, quels sont les facteurs de réussite? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un, si tu veux, une programmation, nous, pour réussir, pour réussir une compétition, hein, qu'elle soit une Coupe Davis ou que ce soit un tournoi et autres, comment on programme. Et tout ça, si tu veux, me permet d'animer des débats, tu vois. Et moi, je fais comme je t'explique là, c'est-à-dire que je pars de mes expériences. C'est tout à fait mes expériences personnelles. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on gagne? Qu'est-ce qui fait qu'on perd? Et ça crée des débats après, si tu veux, qui sont vraiment intéressants. Et ça marche. Ça marche. J'en fais en gros, je ne suis pas à solliciter tout le monde, mais tu vois, ça se fait du bouche à oreille. J'en fais entre 10-12 par an, tu vois, dans des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques. C'est très, très varié. J'ai même fait aussi, une fois, c'était très marrant, c'était la Chambre des notaires de Paris. Marrant ?
Ouais.
Chambre des notaires, et ça s'est super bien passé. Mais bon, je fais ça. Et si tu veux, tu connais Transfert ?
Ouais.
Transfert, c'est en fait Transfert font des formations Transfert, tu vois, et ils ont fait des formations dans le sport et puis ils font des formations aussi de préparateurs mentaux. Et moi, ils m'ont demandé, si tu veux, de faire des interventions pour ces gars qui vont devenir des préparateurs mentaux. Et moi, j'interviens pour essayer, là encore, si tu veux, d'essayer d'expliquer dans quelle mesure, si tu veux, tout ce qui est mental ou émotionnel intervient dans la réussite. Tu vois, donc je pars aussi là d'expérience concrète, quoi, du vécu avec un tel ou un tel ou un tel. Voilà.
Alors, il y a une heure, je t'ai parlé de mes questions de fin. Eh ben, on y arrive.
Vas-y.
On a pété les records. Mais merci en tout cas de ta générosité. Alors, ta définition de la richesse, Patrice.
J'ai du mal à définir en quelques mots, mais moi je parlerais, si tu veux, de richesse. Moi je crois que la première richesse, c'est ta vie personnelle. C'est arriver à être heureux, arriver à faire en sorte que tu te sentes bien dans ta vie personnelle. Tu veux que ce soit ta vie familiale, que ce soit ta vie professionnelle. Voilà, ta vie, tes amis, tout ça, que tu te sens bien là-dedans, c'est ça la vraie richesse, que tu puisses apporter quelque chose et qu'on t'apporte quelque chose. Tu vois, c'est être, te sentir bien, à l'aise et en harmonie, tu veux, avec tous tes proches, que ce soit dans ton milieu familial, professionnel, voilà.
Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée?
D'abord, de ne pas m'être en kikiné dans la journée, avoir le sentiment, si tu veux, d'avoir fait quelque chose qui au moins dans ta journée a comblé certains moments, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan physique des fois, où tu fais un golf, mais ça peut être autre chose, tu vois, à une époque, je faisais des parties de tennis ou des trucs avec des amis ou bien tout ça, ou bien sur le plan professionnel, quand tu as eu le sentiment de faire quelque chose d'intéressant. Là, on fait quelque chose qui me plaît, donc j'aurais le sentiment d'avoir fini ma journée en me disant, tiens, j'ai fait quelque chose qui m'a plu parce que j'ai eu de l'écoute. Et puis ça m'a semblé passionnant de pouvoir échanger comme ça. Voilà, quand tu as fait quelque chose qui, tu te dis, j'ai pas perdu mon temps, quoi.
Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne au quotidien?
Déjà, si tu veux, j'essaye de me dire de servir à quelque chose. Au quotidien, tu te dis, est-ce que tu as servi à quelque chose? C'est-à-dire que ce soit en téléphonant à tes enfants, que ce soit en téléphonant à ta femme, que ce soit en téléphonant à tes amis, que ce soit en téléphonant sur le plan professionnel, en disant, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a servi. Ça a servi. Et moi, le fait de faire quelque chose d'utile, ça me rend heureux, en fait. Voilà.
De quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année?
J'ai des objectifs qui sont d'abord des objectifs de santé, honnêtement. J'essaye de me maintenir aujourd'hui. Tu sais, plus le temps passe, plus ta santé devient importante. Parce que tu as de plus en plus de petits soucis, des petites douleurs par-ci, par-là. Et donc, je suis très vigilant là-dessus. Donc, moi, je suis pas hypochondriaque, tu vois. Je suis pas hyper hypochondriaque. Je suis pas quelqu'un qui est là à me dire, tiens, j'ai un rhume, j'ai le Covid-19. Mais je fais attention, tu vois. Je me dis, pourquoi je fais du golf? Je fais du golf, parce que le jeu m'intéresse, mais aussi parce que je marche. Je fais 10 km par jour, tu vois. Je marche, donc ça me fait du bien. Je fais de la gym, j'essaye de me dire sur le plan de la santé, il faut que je fasse quand j'ai un pet de travers ou un truc comme ça, je vais voir le médecin, j'essaye de me garder vraiment en bonne forme pour moi et pour les autres, j'ai pas envie d'être un fardeau aussi pour les autres, tu vois, donc j'essaye de me dire, tant que je peux me maintenir en forme, c'est essentiel. Essentiel aussi, si tu veux, de me dire, je vais des objectifs où je veux pas perdre mon temps et je veux toujours intellectuellement faire quelque chose qui me passionne, tu vois, donc j'ai un métier à côté, j'ai ces conférences que je fais, et puis je travaille aussi pour une société, ceux qui fait des terrains de tennis en terre battue artificielle, et je travaille avec eux, tu vois, c'est une société italienne, c'est les terres battues artificielles, c'est important le tennis en terre battue en France, si tu veux, et donc je travaille avec eux, et je suis un peu l'ambassadeur de la marque, donc je rencontre soit des différentes personnes dans les municipalités, que ce soit le maire ou l'adjoint au sport, ou bien l'adjoint à l'urbanisme, ces gens-là, ou bien des présidents de club, ou bien des enseignants dans le club, tu vois, pour discuter de notre produit, tu veux, et leur montrer la qualité de notre produit. Donc ça, ça me passionne aussi parce que j'ai un intérêt aussi là-dedans, si tu veux, c'est le développement du tennis sur terre battue. Et puis je me bats, un, parce que j'ai aussi un contrat avec eux, mais deuxièmement, c'est aussi, je fais partie, si tu veux, de, ça s'appelle le groupement des constructeurs de terrains de tennis en terre battue, le GCTTB, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est tous les groupements, tous les constructeurs de tennis en terre battue en France ont créé un groupement ensemble en se disant, on veut développer le tennis sur terre battue en France. Okay. Et donc, pareillement, si tu veux, je suis une sorte d'ambassadeur pour le tennis en terre battue en France, tu vois. Et pas que pour ma société, de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un mec d'une société X qui est concurrente de la nôtre, il peut me faire venir pour inaugurer un club où il fait 5 terrains en terre battue, ou 3, ou 2, ou peu importe. Il me demande de venir, ben j'y vais. Dans le cadre de ce GCTB. Tu vois, voilà. Mais ça, ça m'intéresse, ça me plaît parce que je me dis, voilà, c'est utile, voilà, c'est utile.
Comme tu adores le golf, le parcours le plus incroyable sur lequel tu es joué ?
Je crois que c'est un parcours en Australie où on a joué au milieu des kangourous. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que tu joues et tu sais pas si tu vois. Chez nous, des fois, tu joues et puis tu te dis, bon, tiens, là-bas, il y a, je sais pas moi, tiens, il y a des pigeons ou bien il y a des mouettes ou bien il y a des trucs comme ça. Dis bon, attention à pas toucher les mouettes ou bien. Mais quand tu joues avec des kangourous, ça c'était absolument incroyable. Et Guy m'a dit qu'il avait joué lui où il y avait un panneau. Attention, parce que sur un trou il y avait un crocodile. Donc ça je suis pas allé. Mais les kangourous j'ai joué et ça c'est quand même un truc assez amusant quoi.
Ouais. Je crois et c'est où en France?
Où je joue en France?
Ouais.
Moi, je joue dans plein de golf, mais je joue très, très souvent à Courson.
D'accord.
Courson, parce que ça fait partie, si tu veux, du groupement U-Golf, tu ouais. sais, qui gère, je sais pas, 70 ou 75 golfs ou 80 golfs en France, si tu veux. Ouais. Et donc, je peux jouer dans tous ces golfs-là. Mais un de mes favoris, c'est Courson. Je joue quand j'ai puisque j'ai une maison à Houlgate aussi, si tu veux. Quand je suis à Houlgate, je joue un petit peu au club d'Houlgate et beaucoup au golf de Cabourg aussi, qui est un golf fabuleux, qui est au bord de la mer, avec des trous, si tu veux, qui surplombent la plage de Cabourg. Donc là, c'est génial. J'adore cet endroit. Ça a été repris en plus par un gars que j'adore, qui est un ancien professionnel et qui fait les commentaires sur Canal. C'est Julien... Ah putain, je sais plus, ma mémoire, ça va venir, je vais te dire un peu plus tard.
Le plat que tu cuisines le mieux, Patrice ?
Écoute, je crois que ce sont les pâtes. Je suis pas un grand cuisinier, je me débrouille, mais je peux pas dire que j'ai un plat que je cuisine le mieux. Ah si, je sais faire un steak, je sais faire des œufs, je sais faire du poisson, j'ai un poissonnier qui est formidable et j'adore le poisson, donc je fais des filets, j'achète des filets de poisson. Voilà, je fais des pâtes aussi, bien sûr, et voilà, donc de la salade, des salades, j'achète des... Voilà, des... tu sais, la nourriture, ça n'a jamais été mon... Si, j'aime bien manger, mais je veux dire, je ne fais pas une fixation sur le bien manger, tu vois. J'aime bien manger, mais quand je mange, je mange souvent avec les potes parce que je discute, puis je ne sais même pas ce que je mange, des fois, je choisis, puis après, ben, voilà, je ne suis pas un dingue de la nourriture, ben, pas du tout.
Livre qui a marqué ta vie ?
Tu sais, moi, je lis, je dirais, j'ai, à une époque, je lisais pas mal de romans policiers, des trucs comme ça quand je voyageais, puis j'ai laissé tomber. Maintenant, honnêtement, les livres qui me passionnent, ce sont surtout des ouvrages qui sont soit des ouvrages techniques, soit des ouvrages, si tu veux, qui sont des ouvrages où, si tu veux, ce sont des expériences de vie. Et tu vois, par exemple, j'ai lu des bouquins sur la résilience, tu vois. Ouais. Pourquoi ça serait encore long à t'expliquer, mais si tu veux, moi, j'ai vraiment, vraiment compris beaucoup de choses, si tu veux, quand j'étais en Angleterre, où j'ai été très proche de Tim Henman. Tim Henman, qui est un type, c'est comme Guy Forget, c'est des types vraiment super. Et Tim Henman, quand on a regardé ensemble jouer, c'était au tout début, un junior anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Bogdanovic, qui était en demi-finale du tournoi junior à Wimbledon. On regarde jouer, le gars, il prend 6-1, 6-2 ou un truc comme ça, il fait un très, très mauvais match. Et je sors de là et je lui dis, Tim, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et je pensais qu'il allait me dire, bah, tu vois, il n'a pas un bon jeu de ceci ou cela. Il me dit, this guy has no chance at all to become good. Je parle un peu l'anglais. Ce gars n'a aucune chance de devenir bon. Il n'a aucune résilience. Aucune résilience. Alors je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux dire et tout ça. Et en fait, bah, tu connais la résilience, hein, tu sais ce que c'est cette faculté, si tu veux, de réagir dans les moments difficiles. Dans les pays anglo-saxons, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que vraiment, ils font des fois des tests au départ, ils testent ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'évaluer le joueur par rapport à son niveau de résilience. Et ça veut dire que, est-ce que quand tu vois un gars, quand il, je sais pas, le gars, il prend trois jeux d'affilée, il prend 3-0 dans la vue, il s'écroule. Donc, c'est cette façon qu'on a de rebondir dans la difficulté. Donc, dans le tennis, par exemple, si tu veux, et dans le sport en général, ce sont les gars qui abandonnent, le gars qui baisse les bras, il prend un break dans la vue, ou il prend un tie-break dans la vue, truc, et derrière, il s'écroule. Bien, tu vois, ces gars-là qui lâchent, ces gars qui n'ont pas cette espèce de faculté, si tu veux, de faire avec, d'aller au combat dans la difficulté. Eh bien, si tu veux, moi, mon analyse, elle est très simple, elle est que la confiance ne peut que s'installer à partir du moment où tu as aussi développé ou élevé ton niveau de résilience. Parce que les deux sont liés. Si tu ne te sens pas capable, si tu veux, justement, de réagir, tu n'as pas ce pouvoir de réaction dans les moments difficiles, comment tu peux te dire « je suis confiant » ? Parce que la confiance s'installe que si tu as la résilience. Voilà, donc je suis parti de ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, en fait.
Une lecture en rapport à ça.
Oui, donc bien sûr, si tu veux. Alors là aussi, je n'ai pas les noms en tête, mais c'est là-haut, j'ai toute une tapée de bouquins. Parce que je me suis passionné par ce genre de livre. Tu vois, donc j'ai là-haut, je n'ai pas les titres, il faudrait que je te les sorte, tu vois, tous ces bouquins. Donc tu as ces bouquins et tu as des études qui sont faites aussi sur l'aspect mental ou l'aspect émotionnel. Tu vois, il y a un bouquin que j'ai lu, que j'ai refilé à un de mes amis. Si tu veux, c'était l'intelligence émotionnelle. Tu as l'intelligence collective. Là aussi, c'est un mec... D'ailleurs, j'ai son bouquin m'a plu parce que quand j'ai fait, tu sais, mes conférences, là, j'étais en province, si tu veux, et je fais une de mes conférences. Et avant moi, il y avait un conférencier. Il faudrait que je retrouve son nom qui est là-haut. J'ai un problème de mémoire des noms. Et le gars, à la fin, donc, j'ai assisté à la fin de sa conférence avant de démarrer la mienne. Et le gars, donc, termine et je me dis, mais putain, c'est fantastique, là, ce qu'il raconte. Et je lui dis, je termine la conférence et je lui dis, écoute, moi, je fais ma conférence et puis on se rend compte après. Il me dit, ben, super, on peut bouffer ensemble ce soir et on se voit. Et il m'a parlé de son bouquin. Et il m'a parlé de son expérience. Et j'ai trouvé ça complètement passionnant, si tu veux. Savoir à quel point, justement, ça rejoint tellement ce que je te disais du collectif après, de se mettre ensemble pour être plus fort. Tu vois, quand tu as un groupe qui travaille ensemble, quand tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et quand toutes ces personnes-là, si tu veux, agissent ensemble, eh bien, voilà, tu peux réussir, mais tout le monde parle de ça, mais personne ne le fait réellement, tu vois, sauf les chercheurs qui, ensemble, et encore des fois, tu as des chercheurs parce qu'après, il y a des intérêts économiques qui ne veulent pas, bon, peu importe. Mais je me dis, quand aujourd'hui, ce genre de choses m'intéresse et je me passionne pas ça, peut-être qu'à un autre moment, ben, il y aura autre chose. Mais pour le moment, voilà. Donc, j'ai eu des moments, si tu veux, où j'étais plus intéressé par ce type de lecture, à d'autres moments... Ça a été des bouquins. J'étais passionné aussi à un moment donné sur les bouquins techniques de golf. Oui, j'ai regardé ça. J'ai une collection de bouquins de golf là-haut, t'as pas idée. Et parce que ça m'intéresse, si tu veux, l'enseignement de golf comme l'enseignement d'une manière générale, tu vois, ça me passionne. Donc, voir un peu comment ils enseignent, donc pas que la technique, mais voir un peu comment ils enseignent, les méthodes d'enseignement, ça me passionne aussi. Voilà, je suis plus ça qui me passionne, qui m'intéresse, voilà.
Tu parlais tout à l'heure de concert incroyable auquel tu avais assisté avec Yannick. Quel est le concert le plus dingue que tu aies fait de ta vie?
Et quand on est allé voir Bruce Springsteen.
C'était où?
À Memphis. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Moi, je suis pas. Tu vois, j'y allais tout ça parce que j'y allais avec Yann voir les concerts à certains moments. Et là, ce type, c'est un phénomène. Mais quand je dis phénomène, moi j'ai vu un mec, mais c'était prenant, tu vois, c'était vraiment le type. J'ai trouvé que mais il avait un rythme, la musique était, mais c'était bien. Il y avait une ambiance de folie. J'avais adoré. On était allé voir aussi
Pink Floyd.
Ouais, les Pink Floyd. Voilà, bien sûr, à Londres, on était allé voir ça avec Yann. Là aussi, les Pink Floyd, c'était monstrueux, les Pink Floyd, c'était assez fantastique. Puis il y en a eu d'autres, mais je ne me souviens plus trop. Les titres à New York, on était allé voir aussi un concert. Je ne sais plus qui c'était, peu importe.
Est-ce que tu fais de la méditation?
Non.
Ok. La plus grosse période de doute de ta vie, c'était quand?
J'ai eu une période où j'ai eu un peu de doute sur mes capacités. Surtout, si tu veux, c'est quand j'ai débarqué en Angleterre. Je débarque en Angleterre où j'avais un anglais qui est un anglais pratique. J'avais un anglais pratique, si tu veux. Ouais. Et quand je me retrouve en Angleterre, je suis dans un autre monde, complètement. Tout se passe par téléphone, tout se passe en anglais, bien sûr. Personne ne parle français. Je me retrouve dans une fédération que je ne connais pas, où j'ai dû bosser comme un fou pour améliorer mon anglais, dire tous les jours, tous les soirs, si tu veux, je me tapais, j'avais un cours particulier de 1h30, et puis après, chez moi, je bossais encore. Et si tu veux, j'ai eu des réunions, où j'ai eu des petites réunions, puis après, j'ai eu des réunions plus importantes. Après, j'ai eu des interviews en anglais, des interviews au bord des cours, en anglais, avec des gars qui parlent à toute vitesse, si tu veux, qu'on n'a rien à foutre, que tu sois français ou pas, et qui parlent à toute vitesse. Et honnêtement, pendant quelques mois, j'ai été dans le doute. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire mon job. C'est très, très compliqué parce que j'ai ce problème de langage qui me bloque. Ouais. Et il faut tout de suite être performant. Quand tu es dans le, surtout si tu veux, ils attendaient beaucoup de moi, ils attendaient beaucoup de mon expérience, du haut niveau, et les discussions avec les joueurs, avec les joueuses, c'est très compliqué, surtout qu'il n'y avait, y avait pas de, tu vois, il y avait N-man, et puis personne, quoi. Donc il y avait tout de suite, il fallait essayer d'être performant. Donc il fallait que j'arrive, si tu veux, à convaincre tout en parlant pas bien. Et je croyais que je parlais mieux que la réalité, en fait, tu vois. Donc, okay. J'ai bossé comme un dingue, si tu veux, pour très vite réussir. J'ai eu des cours particuliers avec des gars qui me faisaient des interviews pour simuler des interviews en anglais, répondre en anglais. Ma prof, c'était une femme, ma prof d'anglais venait, tout ça. Bon, j'ai dû bosser comme un dingue, mais j'ai eu une période où je me suis dit, ça va merdouiller. Et puis, petit à petit, ils ont été formidables là-bas parce que, tu vois, ils avaient confiance et tout le truc. Et tout ça s'est lissé au fur et à mesure que mon anglais, si tu veux, s'améliorait. Je sentais que les choses se mettaient en place, les projets que je mettais en place vraiment étaient, voilà, leur plaisaient. Donc, c'était, voilà, tout s'est mis en place. Mais il m'a bien fallu, vraiment, allez, disons, 6 bons mois pour faire mon trou et puis me sentir un peu à l'aise, tu vois, et puis me détendre et puis être... dire à tel point qu'un soir, ça devait être, je sais pas, au bout d'un mois ou un mois et demi, je rentrais d'une réunion que j'avais eue avec, je sais pas, une quinzaine d'entraîneurs et tout ça, qui était une réunion un peu tendue. J'étais stressé parce que j'arrivais pas à trouver les mots, les expressions pour convaincre et tout ça. Et Putain, je suis rentré, j'étais logé à l'hôtel. Tu veux, pendant 2 mois, j'étais logé à l'hôtel. Je suis rentré à l'hôtel et la chambre s'est mise à tourner. Écoute, tout s'est mis à tourner. J'avais un espèce de... Et là, si tu veux, je me dis, bon, je vais me calmer. J'ai réussi à prendre le téléphone, j'ai appelé le room service et puis j'aurais demandé de monter un thé avec du miel et du sucre. Je me suis dit, je fais un coup d'hypoglycémie, tout ça. Bon, le gars est arrivé, je lui ai dit, rentrez. Il m'a dit, bah, venez m'ouvrir. Je lui ai dit, je peux pas, venez. Donc le gars est rentré, il m'a filé, j'ai bu le thé avec du miel et j'ai bouffé du sucre. Ça a été un peu mieux. Ça tournait un peu moins. Je me suis dit, il faut que je bouffe, parce que comme ça allait mieux, je me dis, bah, je fais certainement de l'hypoglycémie. Je suis descendu au resto, j'ai commandé, et putain, et là, j'ai vu le restaurant tourner à nouveau. Putain, je suis vite remonté dans ma chambre, me suis couché, j'ai appelé SOS médecin, et c'est un médecin qui est arrivé, qui m'a regardé, et qui m'a dit, fatigue nerveuse, stress, je vais vous faire une piqûre et vous allez dormir. Tac, le mec m'a piqué. Un quart d'heure après, je dormais à point fermé et je me suis réveillé le lendemain, tout allait bien. Mais tu vois, c'est une période d'angoisse, tu vois, où tu es là en te disant, putain, je ne vais pas réussir, je vais me planter parce que je n'arrive pas à faire ci, à faire ça. Et puis, voilà. Et puis après, tu sais, tu décompresses, tu te déstresses. Et en même temps, plus c'est difficile, plus tu es accro. Tu te dis, mais putain, je vais y arriver, quoi, c'est pas possible. Putain, apprendre l'anglais, c'est pas le bout du monde, je vais m'améliorer. Putain, surtout que j'étais pas nul, hein, loin de là. Mais c'est très différent.
Ouais, t'avais l'anglais du circuit quand même.
C'est très différent quand tu travailles toute la journée. Tu vois, quand tu as des Écossais, tu vois, la mère de Murray à cette époque-là, Andy Murray et son frère Jamie, si tu veux, ils avaient 13 ans, tu vois. Et elle m'appelait, et elle était responsable, elle était entraîneur national sous ma responsabilité en Écosse. Mais quand elle parlait avec son accent écossais, j'habitais rien. Je comprenais. Tu vois. Ah putain. Oh là là là. Donc, et puis maintenant, les meilleurs amis du monde, tu vois. Mais bon, c'était. Donc, tu as des périodes comme ça, qui sont des périodes que j'ai vécues. Mais en même temps, c'est vachement difficile. Et tu te dis, mais putain, je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver. Attends, c'est pas possible. Je vais y arriver. Putain, il y a tellement de trucs à faire ici. C'est pas vrai. Tu vois, et ça te... Voilà.
La deuxième partie de cette question, c'est aujourd'hui, avec ton expérience et ton vécu, quels seraient les mots pour rassurer le Patrice de cette époque-là, dans cette période de doute précise? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais, surtout, travaille avec les autres. Travaille avec les autres. Parce que le problème, si tu veux, c'est te sentir un peu isolé. Moi, tu vois, je me suis retrouvé isolé en Grande-Bretagne et il fallait que je me crée un groupe autour de moi pour me rassurer, tu vois. Et ce que j'avais en France, je l'avais dès le départ. Tu vois, quand j'ai démarré la fédération, Jean-Paul Lotte, c'était un copain, Jean-Claude Massias, on en fait ensemble, le professeur d'éducation physique. Tu vois, on a toujours travaillé en groupe. Et ce groupe était très soudé et je me retrouve en Angleterre, je suis isolé, tu vois, et très vite, bon, et je me suis, il a fallu, tu vois, que assez vite, et ils ont été super. Attends, ils ont été super avec moi parce que ça s'est fait, mais il fallait aussi que je puisse, moi, mieux communiquer avec eux. Or, tu communiques pas qu'avec les gestes où on va boire une bière ensemble ou tout le truc. C'est après, tu vois, il faut que tu puisses expliquer les choses. Et voilà, et ça s'est fait grâce à l'entourage. Et moi, je me dis aujourd'hui que peut-être le gros problème qui existe aujourd'hui, c'est de vouloir isoler, je parle d'entraînement là, hein, de vouloir isoler des entraîneurs seuls avec des joueurs. C'est un pour un, même avec des gamins de l'âge de 10 ans, 9 ans et tout le truc. Leçon individuelle, le prof, l'entraîneur. Non. Déjà, l'entraîneur, il faut qu'il travaille en groupe avec d'autres. Et le jeune, il ne faut pas qu'il soit isolé seul non plus. Il faut qu'il ait aussi autour de lui d'autres gars qui puissent, voilà, que ça puisse stimuler, ça donne envie. C'est les copains. On veut faire mieux que les copains. Ça, voilà, quand un fait mieux, tu as envie de faire mieux. Tout ça. Et puis, quand c'est un bon copain, quand ça ne va pas, C'est créer cet état d'esprit, si tu veux, qui est un état d'esprit. On parlait du collectif, vraiment, et cette, je dirais aujourd'hui, travailler et travailler ensemble, travailler en groupe, vraiment ne cherchez pas à développer un ego qui est, c'est malsain, un ego trop important, mais vraiment, vous allez travailler 10 fois plus efficacement quand vous allez pouvoir travailler ensemble. Et profitez de l'expérience des autres, profitez de ce que les autres peuvent vous apporter. Lisez, bien sûr, lisez beaucoup aussi, parce que c'est dans la lecture qu'on vit aussi les expériences des autres, mais rien ne vaut la communication directe. Voilà.
Est-ce que tu as vécu des anecdotes sympas à raconter avec Roger, Rafa et Djoko?
Non. Non, c'était la génération après la mienne. Et tu sais, quand tu es entraîneur, tu es au contact de tous les entraîneurs, donc c'est facile de sympathiser. Mais quand tu es directeur technique, si tu veux, d'une fédération et tout le truc, tu as moins de contact avec ces gens-là. Et puis surtout, tu sais à quel point, moi je sais mieux que personne, tu sais à quel point c'est important, si tu veux, le travail qu'ils font et tout ça, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas les embêter, tu ne veux pas, voilà.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement ?
On joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, j'y crois très, très fort, tu vois, à ça. Et ça s'applique au sport, mais ça s'applique à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Tu vois, quand je fais cette citation, quand je suis dans mes réunions là, avec des entreprises, chefs d'entreprise, je leur dis, ça, c'est quelque chose, essayez vraiment de vous le dire aussi. C'est vraiment essentiel de se dire à un moment donné, mais c'est pas que ma technique, qu'elle soit gestuelle dans le sport ou qu'elle soit après des techniciens, t'en as dans tous les domaines. Mais après, c'est le côté votre mental et vos émotions qui vont vous aider à mieux fonctionner, à être plus performant. Parce que sans quoi, si t'arrives pas à maîtriser tes émotions, tu deviens plus performant. Tu sais, très très vite, tu t'aperçois que quand tu as la trouille, par exemple, eh ben, tu es inhibé. Tu n'oses plus communiquer, tu n'oses plus rien faire. Et là, tu t'isoles et voilà. À partir de là, tu es plus efficace et puis tu te perds, quoi. Mais j'en ai d'autres aussi, donc je te trouverai ça.
Une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre?
Ah ben, il y a la personne avec qui j'ai fait toute ma carrière, qui est Jean-Claude Massias.
Ok.
Il a été Jean-Claude, si tu veux, c'est le DTN qui a duré le plus longtemps à la fédération, une dizaine d'années ou même plus, tu vois. Et pendant ces années-là, il y a eu tous les titres, quoi. Il y a eu plein de titres. On a gagné plein de titres. Et Jean-Claude était DTN, il a un parcours aussi assez différent du mien, tu vois. Et il a entraîné les meilleurs, il était à l'INSEP, il a créé à l'INSEP, vraiment, il a fait de l'INSEP. Un truc était fabuleux où tous ces gars-là ont été là-bas, les Forger, les Lecomte, les Tulane, les Benavides, et puis d'autres. Quoi.
Bien. Bon, ben, merci Patrice pour cette.
Eh ben, merci, c'était long là. Hein?
Super, un grand merci de ton temps et de ta générosité.
Ben, merci à toi.
À très bientôt.
Si t'es arrivé là, alors un big, big merci d'avoir écouté l'intégralité de notre échange avec Patrice Agelhoer. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Vous avez encore choisi de sacrés blazes, mais un grand merci à Gaston145, Xav, Ludo, Olivier Lamain Production, Romain De Creuse, Léa, Gaïa et Jen, de chacun et chacune nous avoir mis un commentaire qui nous va droit au cœur et nous motive réellement à continuer. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende. Lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Et pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as également le lien dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, ne lâchez rien sur la diag de coup droit. Et à très vite. Ciao.